Et Michael est des lieutenants à titre indigène. Il est promu capitaine et il est cité pour la croix militaire. Il prend part avec son régiment à la campagne du Maroc. Il est jugé indésirable pour le nouveau sultan du Maroc, Moulay Hafid. L'émir Khaled entre en contact avec les jeunes Algériens et fait une tournée de conférences à Paris. Nous écoutons Hider El-Hassani, chercheur et également cousin de l'émir Khaled.
1907 est une date importante parce qu'il se trouvait qu'à cette époque-là, son oncle, qui est mon grand-père direct, qui s'appelait l'émir Abdelmalek, était au Maroc. Il avait quitté Istanbul, il était général à l'armée ottomane et il était aide de camp de Sultan Abdelhamid, mais avec cet esprit patriotique dans lequel il a été élevé tout, la plupart des membres de cette famille, Abdelmalek a quitté Istanbul contre le gré de Sultan Abdelhamid. Il a été au Maroc, en fait clandestinement, et après il a rejoint le gouvernement de l'Gabbas au Maroc espagnol, et il avait comme objectif de monter une armée contre les Français au Maroc. Ce qu'il a fait au départ, il a commencé à monter cette armée, mais à partir de sa position de ministre de guerre avec le gouvernement Gabbas au Maroc espagnol. À cette époque-là, il y avait un renversement de Sultan Abdelaziz par les Français, complot. C'était les visées françaises commençaient à se faire voir, et c'est comme ça que Abdelmalek a été arrêté avec le renversement de Sultan Abdelaziz, et les Français avaient installé Sultan Abdelhafiz, le frère de Abdelaziz. C'était un coup d'état de palais, et Abdelhafiz installé au pouvoir. Abdelmalek, l'oncle de Khaled, a été arrêté, il était emprisonné, et cette période-là les Français ne voulaient pas de Khaled près, dans l'armée française, près de son oncle qui était emprisonné sous les ordres des Français, en fait. Et c'est ensuite aussi que Khaled a été délégué, en fait. Il a été voir son oncle en prison pour discuter avec lui. Ça, c'est nécessite une étude historique, mais je me permets de dire ça en passant, que Khaled était voir son oncle pour le persuader d'accepter un genre de réconciliation avec Abdelhafid pour le faire sortir de prison. Et son oncle n'a pas accepté ça. Mais les Français ont ressenti chez Khaled des sentiments favorables à cette démarche patriotique de son oncle au Maroc. Et c'est pourquoi ils l'ont empêché d'aller avec un régiment d'Algériens, en fait. C'était une armée française, mais c'est surtout composé d'Algériens, d'aller au Maroc par peur qu'ils prêtent main au soulèvement populaire au Maroc, qui allait être dirigé plus tard par son oncle Abdelmalek, qui a mené un combat de 7 ans contre les Français, contre le maréchal Lyoté, qui, au cours de la guerre de Malek, escamoté de l'histoire d'ailleurs, on ne parle pas du tout de Malek, qui est le fils d'Abdelmalek. Abdelmalek, qui est le fils d'Abdelkader, on ne parle jamais de lui. C'était un homme qui a mené 7 ans de combat armé contre les Français au Maroc, quand le Moulay Youssef était installé roi du Maroc, contre le Makhzen, contre l'armée française de Lyoté. Et d'ailleurs, si vous allez à la Bibliothèque nationale en France, vous trouverez les journaux de l'époque où le maréchal Lyoté parlait d'Abdelmalek, de son courage et de son patriotisme, en disant que si l'ennemi pouvait décorer son ennemi, moi je décorerais Abdelmalek des meilleurs ordres de courage et de combat franc qu'il a mené Abdelmalek au Maroc.
En 1914, l'émir Khaled précise les revendications des jeunes Algériens. En septembre, à la déclaration de la guerre, il s'engage dans l'armée, il fait la guerre en France. 1915, l'émir Khaled ne rallie pas son oncle Abdelmalek qui prêchait le djihad dans le Rif. Fin 1916, l'émir Khaled est évacué à Alger pour tuberculose pulmonaire. Il reprend ses contacts avec les jeunes Algériens. Mansour, l'émir Khaled était-il un bon orateur?
Ahmed Belghoul, qui nous brosse le portrait suivant du tribun de l'émir Khaled qui fut dans les années 20 son compagnon, son ami et son représentant à Paris. Il dit... Il avait une double culture, en arabe et en français. C'était un orateur éloquent et d'un talent égal. L'émir avait également un esprit vif, la réplique spontanée, ironique et cinglante. Il avait une voix gutturale et puissante qui couvrait sans effort l'ensemble de son auditoire. Ses discours n'avaient pas la monotonie des discours classiques. Ses phrases étaient concises, d'une diction et d'une ponctuation des plus claires. Il ne prenait jamais des sentiers tortueux. Il allait droit dans le vif du sujet.
On écoute Mahfoud Qbache, auteur d'une œuvre sur l'émir Khaled, historien.
L'administration algérienne a tout fait pour que Khaled soit exilé, parte Et elle a réussi à le faire partir, à le faire exiler. Et il est parti.
Il n'avait pas le choix entre une résidence surveillée.
Non, il ne pouvait plus pas. Non, non, il était obligé de partir et on l'a fait partir pour Alexandrie. Et il n'est revenu en France qu'après la victoire d'Herriot
oui.
en 1924. Il est retourné en France et alors là, il a repris son activité politique. Oui. Il l'a repris, il a organisé en particulier une grande manifestation à Paris, une grande conférence à Paris. Et dans cette manifestation, tout le monde a vu, et en particulier l'administration, qu'il y avait là le procès de la colonisation, le procès le plus violent et le plus célèbre de la colonisation. Et la conclusion, c'était la réclamation, la revendication du droit pour les Algériens de s'organiser, de se gouverner. Donc, il y avait une aspiration à l'indépendance dans ce discours. Et après cette conférence, bon, il ne pouvait plus revenir en Algérie. Le gouvernement français également a fini par abandonner la possibilité de voir en Khaled un politique, comme il le disait, raisonnable entre guillemets.
Nous remontons en 1917. L'émir Khaled se rend à Paris où il participe au congrès de la Ligue des droits de l'homme. 1918, guéri, l'émir Khaled reprend du service, il est affecté à Médéa. En 1919, il fait parvenir une lettre au président Wilson des États-Unis demandant à ce que l'Algérie soit représentée à la Société des Nations. En novembre, il prend sa retraite pour se consacrer à l'action politique. Mansour, quel était le contenu du message au président des États-Unis ?
Dans la pétition adressée au président des États-Unis, M. Wilson, en 1919, l'émir Khaled lui soumet un exposé succinct de la situation de l'Algérie résultant du fait de son occupation par la France depuis 1830. Il écrit « Depuis 89 ans que nous sommes sous la domination française, le paupérisme ne fait qu'augmenter chez nous, pendant que les vainqueurs s'enrichissent à nos dépens. La convention signée du 5 juillet 1830 nous garantissait le respect de nos lois, de nos coutumes et de notre religion. La loi de 1851 a consacré les droits de propriété et de jouissance existants au temps de la conquête. Par la suite, nous nous sommes aperçus à nos détriments que d'aussi belles promesses ne devaient subsister qu'en parole. L'émir Khaled se base sur la déclaration solennelle suivante. Aucun peuple ne peut être contraint de vivre sous une souveraineté qu'il répudie pour faire appel au président des États-Unis, Wilson, afin qu'il accepte l'envoi de délégués choisis librement pour décider de notre sort futur sous l'égide de la Société des Nations. Pour l'émir Khaled, les 14 conditions de paix mondiale acceptées par les alliés et les puissances centrales doivent servir de base à l'affranchissement de tous les petits peuples opprimés sans distinction de race ni de religion.
Nadia Bouzar Kasbadi, professeure à l'École normale supérieure.
Je ne pense pas qu'il faille comparer, parce que les époques sont différentes. L'époque de l'émir Abdelkader, c'est l'époque des révoltes guerrières. Hein? Abdelkader, Bouamama, Al-Muqrani, etc. Nous avions encore cette organisation guerrière en Algérie. Hein? Or, cette situation, cette organisation guerrière a été défaite pendant une période, disons la fin du 19e, le début du 20e, les Algériens se recroquevillent. Avec l'émir Khaled, la situation est différente, complètement différente. Nous n'avons plus d'organisation guerrière. D'ailleurs, nous ne pouvons plus, parce que nous ne pouvons pas, quand bien même, si nous avions essayé, nous ne pouvions pas, parce qu'il y avait un déphasage entre l'armement français et notre armement qui était resté. Nous étions désarmés par la suite. Hein. Donc on en arrive, et c'est là où l'intervention de Khaled est importante, elle arrive à cette charnière où, après cette espèce de repli sur soi effectué par les Algériens, il y a une pensée intellectuelle en ce début de 20e siècle qui est en train de germer. N'oublions pas que Abdou était de passage en Algérie. Il y a des feuilles de la Renaissance, de la Nahda, des feuilles clandestines qui arrivent en Algérie, qui se transmettent de sous le manteau. Donc il y a une première réflexion politique qui se fait. Il y a les jeunes Algériens qui sont en train de s'organiser, qui reste quand même un mouvement, pour le mouvement jeune algérien, qui reste un petit peu timide, mais ce n'est pas un jugement de valeur, car il faut se replacer à la situation de l'époque, mais qui engage de nouvelles idées. Ils ne remettent pas en question le fait colonial. Hein. C'est ce qu'aujourd'hui, peut-être, on aurait tendance à dire. L'émir Khaled a contacté les jeunes Algériens, il a même quitté Saint-Cyr, abandonné Saint-Cyr, et il a frayé une période avec les jeunes Algériens. Il y a cette vie politique. Et l'émir Khaled est là, avec cette révolte, ce début de réflexion politique élaboré par les Algériens, il y a un contexte nouveau, un contexte moderne, c'est-à-dire qu'on commence à mener une action politique, et non plus une action guerrière, qui aurait été vouée à l'échec. Là, on commence à mûrir et élaborer une réflexion à longue portée. Et l'émir Khaled, lorsqu'il a commencé avec sa maturité, a cessé d'être, entre guillemets, cet agitateur tel que le percevait le pouvoir colonial, et qui a commencé à devenir un penseur politique, quelqu'un qui lisait les textes politiques, les lois qui étaient appliquées en Algérie. Il a commencé à faire un travail critique et un travail, en fait, de dénonciateur, c'est-à-dire qu'il disait à la France... Il y a la France des droits de l'homme, celle qui se situe en métropole, et la France coloniale en Algérie. Et c'est là où son action a commencé à prendre forme pour tenter de démontrer qu'en réalité, la fameuse trilogie Liberté, Égalité, Fraternité, hein, par exemple, tous les symboles qu'elle charrie, qu'en Algérie, ce n'était pas appliqué. Et que le code de l'indigénat était absolument un code abominable et qu'il a tenté de démontrer par des écrits, par des prises de position, par des tournées. Il a fait des tournées politiques. Et petit à petit, abandonnant cette nature intempestive, il a canalisé ses forces, il a canalisé ses énergies pour élaborer une réflexion, et c'est comme cela qu'il est devenu un leader. Parce qu'en fait, je pense qu'il élevait la voix du juste. Il dénonçait les injustices et il voulait remédier à cette situation abominable qui existait en Algérie. Et en cela, il ne pouvait pas mener la même action que son grand-père. Pas du tout, parce que le contexte ne s'y prêtait plus.
Aux élections municipales d'Alger de 1920, l'émir Khaled est élu sur un programme hostile à la naturalisation. Il est élu délégué financier et conseiller général d'Alger. Il conduit une délégation des jeunes Algériens à Paris pour empêcher le rétablissement des pouvoirs disciplinaires indigénats. En octobre, avec ses amis élus, il démissionne du conseil municipal d'Alger. En janvier 1921, la liste de l'émir Khaled est élue en entier. Le 2 mai, ne croyant plus à l'efficacité de l'action des élus contrecarrés par l'administration, l'émir Khaled démissionne de ses mandats de délégué financier et de conseiller général. Le 20 avril 1921, il prononce un discours au président de la République Mitterrand en visite à Alger. En juillet 1921, le congrès des conseillers municipaux indigènes demande à l'émir Khaled de se présenter à nouveau au conseil général. Il accepte. Il est élu triomphalement. Quels étaient les propos de l'émir Khaled lors de son discours au président de la République française ?
Le 20 avril 1922, l'émir Khaled prononce un discours devant le président de la République française à la mosquée Sidi Abd al-Rahman. Il souhaite la bienvenue au président Mitterrand en sa qualité de représentant élu de la population musulmane au conseil municipal et fait remarquer qu'à la veille du centenaire de l'occupation française, cette haute marque de bienveillance peut-elle avoir d'autre but que de proclamer hautement que les habitants de l'Algérie, sans distinction de confession et de race, sont également les enfants de la France et ont un égal droit à son foyer. L'émir Khaled demande à la France de continuer à l'égard des musulmans algériens sa tendre sollicitude en développant les libertés que leur a déjà si généreusement accordées. Sceptique tout de même, l'émir Khaled précise que si le libre jeu des institutions permet aux enfants de la France le plein épanouissement de leurs moyens, nous souhaitons qu'il en soit bientôt de même pour nous, enfants adoptifs, dont les intentions les meilleures sont parfois mal interprétées ou incomprises.
Mahfoud Qaddash, historien.
Je vous ai dit qu'il y avait deux phases, deux aspects dans la revendication de l'émir Khaled. Il y avait la phase de revendication dans le cadre légal français, la phase où il a précisé les revendications des jeunes Algériens, et ces revendications, c'est l'égalité algérien-français dans tous les domaines, ce qui veut dire sur le plan politique, la possibilité pour les Algériens d'avoir les privilèges des citoyens français, donc de voter pour les assemblées nationales françaises et de participer à l'élaboration des lois qui les concernent, tout en restant fidèles à leur statut musulman, ce que la France n'a pas accepté, qu'elle n'a fini par accepter qu'en 1944 avec l'ordonnance de De Gaulle. Ça, c'est une phase. Maintenant, il y a cette deuxième phase et il faut se situer dans le temps. En 1914, en 1919, en 1920, l'affirmation brutale nationaliste n'existait pas. Elle a été auparavant l'expression de ceux qui ont combattu les armes à la main. Mais expression d'un mouvement organisé, elle n'existait pas. Et ce qui l'ont abordé était obligé de biaiser. Donc, si je fais une comparaison, si je prends 1947-1948, où je vois encore des mouvements politiques importants biaisés avec la question brutale, nationalisme, indépendance, et chercher à trouver des formules dans l'association, dans l'autonomie interne. Je comprends l'atmosphère qui existait à cette époque, en 1919-1920.
Donc, tacticien.
Absolument. C'est l'expression, la première expression, peut-être les balbutiements de l'expression politique nationaliste. Quand Khaled, ou quand dans son journal, on lit des phrases comme celle-ci, « Toutes vos mesures ne serviront à rien. Les événements prochains balayeront toute cette pourriture. Les temps sont révolus. Les Français d'Algérie envisagent, non sans amertume, le jour où ils seront obligés de boucler leurs valises pour rejoindre leur pays natal. » Quand on voit cette autre phrase, « Si vous continuez à rendre à nos indigènes la vie impossible, l'expression ne sera que plus violente. Vous désespérez les indigènes, vous les exaspérez, et lorsqu'il leur sera prouvé qu'avec vous, il n'y a rien à gagner, et qu'après tout, se révolter, les armes à la main, il n'y a rien à perdre, puisque tout est déjà perdu, et perdu depuis longtemps, depuis toujours, et de votre fait, ils vous diront alors, à la première occasion, qu'êtes-vous venu faire dans notre pays ? Rentrez chez vous. Ne vous entêtez pas dans l'oppression. Voyez ce qui en est de l'Irlande. Prenez garde. Un jour, vous aurez rien à faire, trop à faire par ailleurs, de ne pas vous entendre crier hors d'ici, et vous ne l'aurez pas voulu. Voilà des déclarations. Oui. Si on ne peut pas ranger ces déclarations comme déclarations nationalistes, bien, je crois qu'on est de mauvaise foi.
En janvier 1922, l'émir Khaled crée une association Fraternité Algérienne avec l'intention d'en faire un grand parti. Le découpage électoral administratif est conçu pour isoler les jeunes Algériens. Aux élections, les amis de Khaled sont battus. En mars 1923, il renonce définitivement à se présenter aux élections. En avril, il se retire de la vie politique. C'est l'échec des candidats jeunes Algériens. Mansour, c'est quoi cette association, la Fraternité Indigène Algérienne ?
En janvier 1922, Malika fut créée par l'émir Khaled de l'association musulmane La Fraternité Indigène Algérienne dans le but de donner de la cohésion aux revendications indigènes. Victor Spielmann, dans son étude de 1938 sur l'émir Khaled, explique le but de cette association comme étant la recherche de moyens pour défendre et améliorer la situation morale, matérielle, politique et intellectuelle des populations musulmanes en Algérie. Les débuts de cette association furent prospères, car la majorité des Algériens lui manifesta sa sympathie. Mais l'émancipation des indigènes algériens ne faisait pas l'affaire de l'administration et de sa clientèle, les gros colons féodaux et les grands chefs indigènes, nous dit Spielmann. Alors commença une campagne furieuse par la presse coloniale qui présentait l'émir Khaled comme un anti-français cherchant à faire insurger les indigènes. Après l'exil de l'émir Khaled en 1923, le comité d'action se décomposa de lui-même.
Nous vous quittons sur un air de l'époque et sur le charme de l'émir Khaled. Demain, pour la quatrième et dernière partie.
نجبر سن جوز معاك ولو جبر سن متشافي بهاكة الحسن ما بعد سيني يا عرضات ما رمسيني يا والفي مهني يا وانا داتي من هواك صارت مسروبة يستاهل من يشق من حوالة فازت سردي تمنيني حتى نقول يا ساداتي عني رضا قلبي محبوبة وتوليدت سيهان والهجر من بعد التقرير ويا لو صبت الزور وراس قدسك فيني يا ولفي معاك كل شهر نوداو ما يبطل كواشي ولا يقودك حراج رقي صفار لونه سقطت وقدوي حجرها تعني وتحقي دون غيرك ما كان حبيب.
Dès 1919, Lémy Khaled commence une carrière politique et devient le porte-parole du nationalisme algérien. Il apparaît comme le chef du mouvement Jeune Algérien. Il est élu aux élections municipales d'Alger de 1920. Comme délégué financier et conseiller général. Il soumet les doléances des musulmans d'Algérie au président français Mitterrand. En avril 1923, il se retire de la vie politique. On écoute Mahfoud Kdesh, l'historien.
On peut caractériser sa politique comme une politique désirant l'assimilation. En faisant cette remarque, il désirait l'assimilation politique, c'est-à-dire l'égalité des droits. Il a réclamé la citoyenneté française, mais dans le statut personnel. Et cela, tout le mouvement algérien, tout le mouvement des élus, le mouvement de Farhat Abbas, et même l'action de l'association des ulamas au congrès de musulmans de 36, ont réclamé cette citoyenneté dans le statut musulman. Et quand il l'a réclamé, lui, il l'a réclamé à partir de 1913, on peut dire qu'il était en avance sur ces réformistes qui, jusqu'en 36-39, réclamaient cette égalité politique. La revendication nationaliste n'a été exprimée que par l'étoile nord-africaine à partir de 1927 et par les mouvements qui ont continué l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire le PPA à partir de 37, et puis le mouvement du triomphe des libertés démocratiques qui ont réclamé l'indépendance. Et les autres mouvements réformistes, Parti communiste compris, n'ont réclamé une formule d'autonomie interne, donc une formule voisine de l'indépendance, qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, quand on ne veut pas voir en Khaled un précurseur du nationalisme et quand on l'accuse de faire de l'assimilation, je crois qu'il y a de la mauvaise foi. Khaled a bel et bien été un précurseur du nationalisme. On le voit, je vous ai dit tout à l'heure, dans le temps violent qui a été utilisé dans sa presse, dans les journaux, et on peut faire de multiples situations de ce temps révolutionnaire. On peut le voir dans la force avec laquelle il a refusé la naturalisation, parce qu'il estimait que la naturalisation était inacceptable du point de vue religieux d'abord, parce que c'était une apostasie que de se soumettre à la loi aux lois françaises en ce qui concerne le statut personnel et d'abandonner ce qui était régi par le code musulman. Ça, c'est une forme d'apostasie pour Khaled et c'était compris ainsi par le public. Le public avait un mépris total pour ceux qui acceptaient la naturalisation. Ils les appelaient les mtornés. Et d'autre part, il a revendiqué pour l'Algérie des formules d'association et à la fin, il a réclamé des formules de gouvernement de l'Algérie par des Algériens. Et à la fin, il a été pris comme symbole par le mouvement nationaliste. Au début, l'étoile nord-africaine qui avait repris le programme des nationalistes et qui n'avait pas de porte-drapeau, qui n'avait pas d'homme symbolique à présenter au peuple, eh bien, sur les cartes de membres de l'étoile nord-africaine, il n'a pas été président. Ils l'ont choisi comme président d'honneur, mais sur les cartes de membres de l'étoile nord-africaine, il y avait Khaled, il y avait la personnalité de Khaled.
Fin juillet 1923, l'émir Khaled est obligé de quitter l'Algérie. Il part en Égypte où il est bien accueilli. En mai 1924, l'émir Khaled est désigné comme président du comité égyptien pour le prochain congrès islamique du Khalifat. Mansour, rappelez-nous le combat politique de l'émir Khaled de 1920 à 1923.
De 1920 à 1923, l'émir Khaled mena une lutte sans répit contre le système colonial, la haute administration et la presse européenne. Le journal Iqdem, qui le fonda, fut son arme préférée. Il représente pour l'émir Khaled 3 années de combat pour la cause algérienne et la défense des intérêts des musulmans. Comme la vie politique à l'époque se situait le plus souvent sur le plan des personnes, les joutes journalistiques passionnaient les lecteurs et constituaient l'élément le plus attrayant de cette vie politique. L'Iqdem a joué un grand rôle dans la dénonciation des abus administratifs. L'émir Khaled flagellait surtout les chefs indigènes vendus à l'administration. Il attaquait les Sayah d'Orléansville qui avaient mis en coupe réglée les fellahs de leur région. Il dénonça les agissements du Qaïd Brahim el-Khdar qui avait fini par être à la tête de 5000 hectares et les accaparements de plus de 4600 hectares opérés par le Bachara Sinadiel de la région de Boussaïda.
On écoute Nadia Bouzar Kasbadi.
Il y avait cette notion de contrat de race, etc., hein, que certains indigénophiles préconisaient. Donc des hommes éclairés, des Français qui étaient éclairés et qui disaient que les solutions se trouvaient dans ce qu'on appelait le contrat de race, et puis ensuite donc l'association des races et ensuite l'assimilation. Hein. Lui ne voulait pas, parce que c'était vraiment l'assimilation, c'est-à-dire devenir français et vivre sous les lois, sous le coup des lois françaises. Ce qu'il désirait, lui, en tant que musulman, il disait « Nous avons nos propres lois et on doit respecter nos lois et mettre en pratique nos propres lois. » Donc il n'y avait pas une dispersion, comme ça a été dit là, il y a une minute, il n'y avait pas une dispersion. Il essayait, avec les contacts qu'ils avaient de cette Narda, qui a été très bénéfique, ils essayaient d'avoir le plus d'arguments possibles à opposer. Car en fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'indépendance de l'Algérie ne s'est pas faite par un mouvement algérien, simplement. Il y a eu toutes sortes d'influences politiques, comme un peu plus tard Hajj Messali avec l'étoile nord-africaine, qui ont récupéré les principes syndicalistes européens qu'ils avaient acquis donc en Europe, pour en faire leur principe est pour élaborer une argumentation. Pour les Khaled également. Toute cette notion de droit de l'homme, il l'avait acquise en fréquentant, en fréquentant avec les officiers de Saint-Cyr, avec cette aristocratie française. Et il l'a réutilisé, il a retourné l'arme. Et ce qui s'est passé avec la Narda, c'est exactement la même chose. La Narda, c'est quoi en quelque sorte? C'est ce réveil donc du monde arabe contre le colonialisme occidental. Les situations, les principes, les pratiques étaient, étaient les mêmes, et il fallait avec joindre les expériences de tout le monde pour pouvoir élaborer une politique algérienne donc contre l'occupant. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas parler d'indépendance, parce que l'indépendance est une maturation. Vous savez, les idées, elles se développent, et une idée en génère une autre. Et l'indépendance, pourquoi on a parlé d'indépendance? Mais en réalité, l'indépendance, on en a parlé à l'étranger, on n'en a pas parlé en Algérie. Les mots indépendance se sont faits à l'étranger, pas en Algérie, parce qu'on ne pouvait pas, et je crois que ce qu'on oublie toujours, c'est ce qu'était réellement ce code de l'indigénat. Alors aujourd'hui, on dit oui, mais par exemple, pourquoi il n'a pas proposé d'indépendance? C'est parce que c'était trop tôt encore dans l'étape intellectuelle et politique dans laquelle nous étions à cette époque-là.
علي غير جمالك وامن الظهر
1924, l'émir Khaled rentre en France à la suite de la victoire électorale de la gauche française. Il fait à Paris des conférences qui eurent un grand retentissement. Mansour, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ces conférences ?
Eh bien, pour vous donner plus d'informations, je vais me baser sur ce que raconte M. Ahmed Belrol, qui raconte ainsi l'arrivée de l'émir Khaled à Paris en 1924. Il dit « En mai 1924, la grande nouvelle s'était répandue dans le milieu des émigrés algériens, à savoir l'arrivée inopinée de l'émir Khaled à Paris, en excellente forme, dynamique et décidé plus que jamais à continuer la lutte interrompue. L'émir était descendu dans un petit hôtel modeste dans le 16e arrondissement à Paris. » Avant de commencer les conférences sur la situation politique, économique et sociale des musulmans algériens, il recevait dans un appartement Jacques Doriot, qui était directeur de la section des affaires coloniales du Parti communiste français. À eux deux, ils ont tenu des réunions préliminaires absolument secrètes pour arrêter les plans d'action de la politique algérienne. La première conférence de l'émir Khaled s'était tenue le 12 juillet 1924 à la salle des ingénieurs civils, rue Blanche, dans le 9e arrondissement à Paris. 12 000 Algériens de France étaient venus à Paris pour entendre l'émir Khaled, que personne ne pensait plus jamais revoir. La grande majorité restait cantonnée dans les rues environnantes. Dans la salle de conférence, les émigrés étaient serrés les uns contre les autres. Tout ce monde attendait l'arrivée du héros et du martyr national. Quand il apparut à la tribune, ce fut un tonnerre frénétique d'applaudissements aux cris de « Vive l'Algérie !»« À bas les traîtres !»« À bas les Zara et les caïds !» À la fin de cette conférence, l'émir proposa la fondation du premier mouvement politique algérien et islamique sous l'appellation de l'étoile nord-africaine et islamique. Cette proposition fut acceptée après un vote à main levée à l'unanimité par l'assistance. Le parti l'étoile nord-africaine a été légalement constitué et son siège social installé, 15 rue Fagon, Paris, 13e arrondissement.
On écoute M. Haider El-Hassani, chercheur et cousin de l'émir Khaled.
En termes militaires, parce que nous avons tous passé par les académies militaires, Khaled a été lésé dans sa promotion. Et c'est comme ça qu'il a été promu entre lieutenant et capitaine, rapidement, parce qu'il avait beaucoup traîné entre sous-lieutenant et lieutenant. Seulement, Khaled était bloqué au grade de capitaine, parce que c'était un Algérien. Et on l'a tenté de devenir naturalisé français, il a refusé. Parce qu'immédiatement, il aurait été promu commandant, il aurait franchi tous les échelons pour devenir général de l'armée française, ce qu'il ne souhaitait pas, lui. D'ailleurs, c'est pourquoi il a, en pleine carrière de l'armée française, il avait quitté cette armée de son plein gré. C'est la deuxième fois qu'il a quitté. Il avait quitté au cours de ses études à Saint-Cyr, et après, il l'a quitté pour mener son combat nationaliste en Algérie.
1910, on a l'impression qu'il prend conscience. C'est une impression qui est la mienne. Il démissionne donc de l'armée. Le refus répétitif, le général Lyoté refuse également de le laisser partir au Maroc.
Voilà.
Oui.
C'est ça. En fait, il voulait empêcher Khaled de devenir l'Algérien politique. Pour eux, ils ont exigé que Khaled aille à Saint-Cyr pour l'emprisonner dans l'armée française. Et au sein de leur propre armée, il leur a posé des problèmes. Alors c'est pourquoi ils l'ont maintenu, ils ne voulaient pas le libérer, ils ne l'ont pas envoyé au Maroc, ils voulaient le maintenir sous leur coupe. Mais ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Et comme vous voyez plus tard, comment Khaled est revenu mener un combat, précurseur d'ailleurs, dans ce pays, pour semer les graines de patriotisme, de nationalisme, très réaliste, qui demandait ce qui était obtenable. On peut retrouver son discours avec le président de la République française, Al-Sidi Abdelrahman. On peut retrouver beaucoup, beaucoup de références. Les gens parlent que Khaled n'a pas parlé du mot indépendance. Mais Khaled voyait ça comme perception. Mais on a beaucoup, beaucoup, comme j'ai dit au départ, mis la lumière et l'accent sur son combat intermédiaire sans parler de son objectif final. Son objectif final de Khaled, si on a la perception de l'historien objectif, ce qui n'est pas le cas de la plupart des historiens algériens, si nous avons des historiens d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'historiens dans ce pays. Si on a cette perception d'historien, on cherchera les faits, les hommes, leurs actes, leurs objectifs. Mais on n'a pas cherché les objectifs de Khaled. Et c'est pourquoi il a été lésé par cette histoire. Et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce pays soit libre et qu'il maintienne son liberté.
En septembre 1924, il était obligé de retourner en Égypte. En mars 1925, il charge Spielmann de prendre en main la question de la création d'un quotidien qu'il avait eu l'idée de lancer alors qu'il était à Alger. On écoute Zoubida Al-Hassani, sa cousine, qui l'a connue, qui va nous dire comment il s'habillait.
كان يلبس القندوره والبرانص والقنور بالخيط كي هو كي بابا كيف كيف قالوا ما هذا الولي العام قالوا ما عندك حتى حبيب اليوم تسلم وتروح كانت بنته معطيه لوليد خالتها وليده الكبير الهاشمي ثاني كانت معطيه له بنت خالته يمات حيضر قالوا انا زوجت ولادي يعني حتى نواسي العرس نتاع ولادي وديك الساعة نروح ندي عروستي وبنتي خليها في دارها ونروح راح العين البيضاء خرجوا له قشوا كأنه سيزاوه هذاك النهار أنا ما ننساهش كنت صغيرة وراني مفكرة فيه جاوا داو القش نتاعه كامل للسوق باعوه له ورفض روحه راح العين البيضاء جهة قسنطينة ناضوا الشاوية هذا راجل عمتي من بعد يحكي قال لنا ناضوا الشاوية شبعان ينشعير والبن ورفضوا الدبابز أبدأ البري في سوق ليه بعت لهم لهنا قال لهم نحيتوا الهم عليكم بعتوه ليليا أنا ما نعرفش كيفاش درك نواسي مع هاد الناس هادو ما يفهموا ما يرجعوا ما
Le 10 mai 1925, élection au conseil municipal d'Alger. L'émir Khaled figure avec certains de ses amis dans une liste présentée par le parti communiste. Les élections furent truquées par l'administration. Mansour, quelle est l'image de l'émir Khaled dans la presse française ?
Le journal Le Temps du 18 septembre 1925 traite le cas de Khaled El-Hashmi et estime que l'arrestation et la condamnation en Égypte de Khaled, qui se part sans droit du titre d'émir, ont donné lieu à des informations contradictoires. Il livre une mise au point en expliquant que pendant l'été 1924 à Paris, le prétendu émir se livra à une agitation communiste parmi les ouvriers indigènes de l'Afrique du Nord. Il est écrit plus loin que la réputation de Khaled El-Hashmi est loin d'être en harmonie avec l'ordre et la paix. Ce Syrien a toujours été tourmenté, non peut-être par la folie des grandeurs, mais par un besoin inné d'intrigues locales ou étrangères. Alexandrie lui offrait à cet égard le champ d'activité rêvé. Elle est en effet un foyer de panislamisme et un centre principal de propagande bolcheviste.
En 1926, l'émir Khaled est dénommé président d'honneur de l'étoile nord-africaine. Il retourne en Syrie, a des contacts avec les nationalistes syriens. Mais avant de partir en Syrie, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et ça, monsieur El-Hassani nous raconte.
Alors, en même temps qu'on lui jette des fleurs, en même temps qu'il est démissionnaire de l'armée française, refus de travailler avec eux, et qu'il commence à leur poser des problèmes dans ce pays, et qu'il s'est entouré à cette époque-là, comme vous vous rappelez, de la population partout où il allait. Il avait, d'ailleurs, Abdelkader était l'unificateur de ce peuple, de la nation algérienne, comme son grand-père aussi était venu mener son combat à travers tout le territoire national. Il a sillonné le territoire national, s'est entouré de son peuple, il a fait des discours, des meetings à Tlemcen, à Mascara, à Oran, dans l'Est, dans le Sud, à Abu Saada, à Constantine, à El Beida, partout. Et ça, c'était une bataille de longue haleine, très profondément réfléchie. Et c'est comme ça qu'il a réussi à mobiliser des forces et à rassembler les masses autour de lui et pouvoir organiser sa participation aux élections plus tard et tout ça. Et le problème, c'est de voir dans sa démarche cette vision claire d'un plan d'action politique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit au cours de notre entretien qu'il faut examiner l'action de Khaled. D'ailleurs, l'historien doit examiner l'action, doit examiner les faits. Cette bataille que Khaled menait à l'époque, c'est pas par hasard qu'elle coïncidait avec des soulèvements populaires contre le colonialisme en Syrie, avec la révolution qui a abouti en 1925 à un renforcement, avec le soulèvement du Rif au Maroc. Et justement, on peut rappeler aussi qu'en 1924, Khaled est allé à Paris, il a fait un discours au Grand Jobel, un discours qui s'adressait à une audience plus large, internationale, pour sensibiliser le monde sur la bataille du peuple algérien. Et cette aspiration de Khaled, il l'a située dans une bataille globale contre le colonialisme. C'était d'ailleurs l'époque de lutte de différents peuples pour leur libération du colonialisme.
En lui accordant son congé de 3 années, il a le temps de connaître à fond son pays, puis là il prend conscience de la misère et de l'injustice sociale.
Voilà. Ça, cette histoire de prendre conscience de la misère et de l'injustice sociale, c'est quelque chose qui a été aussi une éducation de famille. Ça, nous avons toujours eu conscience de ce qui est autour de nous. Nous n'avons pas été élevés, si on dit émir, etc., mais on n'a pas été élevés comme des princes. On a été élevés pour voir la misère des autres. Ma mère me refusait l'argent, mais elle me laissait l'argent que je donne aux autres.
Et comment procédait-il? C'est-à-dire, il allait d'endroit en endroit, il faisait des discours, comment faisait-il?
Khaled.
Oui.
Ah oui, Khaled se déplaçait à travers l'Algérie. En fait, il faisait des discours, des rassemblements. Il avait beaucoup de suivi dans ce pays. Il avait beaucoup de soutien populaire. Et il a mené des batailles électorales aussi.
Oui.
Parce qu'il a été tête de liste de liste électorale qui était de gauche, d'ailleurs. Dans lesquels il y avait les communistes aussi dans ce pays. C'était un homme d'universalisme, d'esprit très large et d'alliance. C'est ça que j'appelle, quand j'ai perçu chez lui, cette stratège. Cet homme stratège qui concevait les choses à long terme. Il avait une vision stratégique de la vie politique. Mm-hmm. Et je crois que c'était un éducateur. Quand je dis qu'à mon enfance, je croyais que Khaled était un peu... compromis même, on dirait, parce qu'il discutait avec les Français, il était avec eux. Je crois qu'il avait une vision stratégique de la vie politique. Et c'est un des premiers, d'ailleurs, le titre de cet ouvrage que Meunier avec Colaxis ont écrit, il s'appelait l'émir Khaled, premier zaïm, avec point d'interrogation. Est-ce que c'était le premier précurseur, promoteur du mouvement national dans ce pays?
1927, pour parler avec le Parti communiste français pour le lancement d'un grand parti national révolutionnaire. Projet qui n'est pas réalisé, le Parti communiste français n'ayant pas accordé les moyens demandés. En janvier 1936, l'émir Khaled meurt à Damas. Mansour, des témoignages ont été faits sur l'action politique de l'émir Khaled.
Des témoignages et des jugements ont été portés sur l'action politique de l'émir Khaled par d'autres hommes politiques algériens. Dans cette littérature politique, il faut citer entre autres Messali El-Hadj, qui dans ses mémoires écrit que le programme politique de l'émir Khaled était le même que celui des réformistes. En substance, il demandait la suppression du code de l'indigénat, l'amélioration de la situation économique et une représentation parlementaire de 6 députés et de 3 sénateurs. Mais il n'évoquait pas le problème de l'indépendance de l'Algérie. Le mot n'a pas été prononcé. Personne n'en parlait, il est vrai, puisque la plus audacieuse des revendications à l'époque consistait à réclamer qu'on nous traite sur un pied d'égalité avec les Français. Farhat Abbas, dans Autopsie d'une guerre, écrit à la page 41 « Seul l'émir Khaled prédit que dans un demi-siècle, l'Algérie ne serait ni arabe ni française. Elle serait probablement sous domination d'une autre nation. » Il appuyait sa déclaration sur le fait que la France ne faisait rien pour émanciper les masses musulmanes et que le peuplement européen devenait de plus en plus cosmopolite et de moins en moins français. Ahmed Mahsas, dans son ouvrage « Le mouvement révolutionnaire en Algérie, de la Première Guerre mondiale à 1954 », écrit que le rôle de l'émir Khaled fut plus celui d'un révélateur du fait national que celui du promoteur de la doctrine nationaliste. Son combat courageux et inlassable contre l'oppression coloniale a revêtu une signification réellement nationale malgré la contradiction de son programme politique. Il fut ainsi une grande figure de ce pays et sans aucun doute le révélateur de l'expression moderne du sentiment national. Un discours à la mémoire de l'émir Khaled a été prononcé le 20 février 1938 par le délégué indochinois. Il dit « Le rassemblement colonial s'incline avec vous devant la mémoire de l'émir Khaled, petit-fils du grand Abd al-Qadr. Quand la tempête gronde à l'horizon, que valent les slogans et les palabres? Tout cela est périmé, démodé, démonétisé. Tout cela ne prend plus. L'histoire d'Itan ne se répète jamais. C'est bien notre conviction. C'est aussi un avertissement qu'il convient d'adresser aux impérialistes en désarroi, en ce jour où nous glorifions ensemble celui qui mourut par leur ingratitude, mais vivra toujours dans nos cœurs pour édifier tous les peuples colonisés. »
L'émir Khaled, il éleva la voix du juste, et en s'approchant du personnage, on ne peut que tomber amoureux.
يلوسني ما بان أشمري عليهم هبيوم رحلوا خلفتهم عاملوا من ذوك الخلوع جنحان سربيهم مركبهم البديع شكله عيوم صبر ذوك القوم نادناها وما كان هم ما عرفوا من ذا الفراق واتلوا كان هم ما عرفوا من ذي الفراق قتلوا جرى ليات الفراق والضميد الباين القلب هيام يا متخلخل بالي آه وتركني عن السياق يوم صار الزين وجباج في الأمنام وصار حلالي من عناق بفوق الخدايين رحت الغوان شامو غالي يا غالي يا ليت الرحلين لو كان عرفوا حالي اشي يسلي قلب المجروح من اهواهم بعد ما مالكوني في حبهم راحوا